la chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr. La chronique beaujolaise de l'Académie, c'est parti.
Bonjour, cette émission se déroule dans le cadre des chemins de traverse, les premiers mardis de chaque mois à 18h30, rediffusée le samedi suivant. Elle précède une conférence de l'Académie de Villefranche et du Beaujolais qui a lieu le deuxième samedi de chaque mois à 16h à l'Auditorium de Villefranche et traite du sujet en l'élargissant. Ce mois-ci, la conférence du 8 avril s'intitule « Les Flandrins peintres ». Elle sera faite par Stéphane Pacou, conservateur en chef au Musée Saint-Pierre à Lyon. Mais aujourd'hui, nous en profiterons pour évoquer plus précisément avec David Duitnecht, professeur d'art plastique et chargé de cours à l'Université de Saint-Étienne, ce que peut signifier représenter le Beaujolais dans les arts. Ce sera d'ailleurs un écho à notre futur colloque « Vous avez dit Beaujolais » qui aura lieu le 29 et 30 septembre prochain. Bonjour David Duitnecht.
Bonjour.
Bonjour. Écoutez, puisque nous allons parler d'art, voilà la première question que je souhaite vous poser. Quels sont les différents modes de représentation artistique, notamment à propos d'une région ? Et j'imagine qu'ils sont fort divers.
Oui. Déjà, il y a différents modes de représentation. On va essayer déjà de définir ce que c'est la représentation, parce que c'est quand même un terme qui est, surtout en art, est très important. D'ailleurs, dans un premier temps, c'est l'imitation de l'apparence. Et dans un second temps aussi, c'est l'action de rendre quelque chose en fait, présent à quelqu'un en le montrant, en faisant savoir et bien sûr, en mobilisant aussi une forme de savoir-faire. Et dans le Beaujolais, d'ailleurs, on a un peu cette photographie-là de plusieurs savoir-faire. Et en fait, ils ont été classifiés par l'Académie de peinture. Donc, on a la peinture de genre dans un premier lieu, c'est-à-dire l'expression qui désigne en fait les tableaux ayant pour sujet des scènes familiales, populaires ou anecdotiques. Après, on a les paysages, bien sûr. On a pléthore de paysages en Beaujolais et puis de manière aussi générique, hein, c'est-à-dire naturel ou construit ou parfois réel ou imaginaire. Avec et sans personnage aussi, et dans le Beaujolais aussi, on alterne des fois ces types de paysages. On a aussi bien sûr les natures mortes, c'est-à-dire en fait la représentation d'objets qui peut être naturel ou artificiel, voilà, qui est un genre bien connu dans la peinture. Et enfin les portraits, c'est-à-dire qui regroupent des représentations de personnes sculptées, peintes ou dessinées.
Mais alors dans ce cadre-là, avec tous ces modes différents, il y a quand même une gageure, c'est comment représenter une région de manière globale.
Alors, c'est très complexe de représenter une région parce qu'on va tomber aussi des fois sous une forme de banalité. Parce que justement, avec ces genres que je viens de citer, on retrouve tous ces types de genres dans chaque région, en fait. Par contre, il y a quand même des attributs. C'est-à-dire qu'il y a des... notamment le Beaujolais, il y a quand même des caractéristiques assez propres. Donc, par exemple, si on prend les aquarelles d'Alain Renoux avec Amour en Beaujolais, en fait, on retrouve les fameuses pierres dorées, donc avec des teintes plutôt ocre, etc. Voilà. Et puis après, caractéristiques aussi de certaines vues du Beaujolais. On peut penser aussi au travail de Georges Dufresnoy, par exemple, avec une allée du chapitre en salle au Beaujolais, où c'est un espace particulier. On peut aussi aller un peu au-delà, c'est-à-dire notamment dans certaines représentations religieuses. Si on prend, par exemple, les vitraux de Luc Barbier, donc qui situe en fait à l'église Saint-Martin à Vaux-Renard et qui montre une certaine forme aussi de contemporanéité en fait au niveau des vitraux qui nous rappelle aussi le in vino veritas qui signifie dans le vin la vérité et qui sont vraiment des vitraux magnifiques à aller voir justement, où il y a le travail encore de Jean Fusaro avec l'église Saint-Jacques des Arrêts à Degrône qui montre diverses peintures sur la vie du Christ, voilà, et qui est bien propre au peintre au niveau de sa représentation.
Oui, dont un baptême du Christ dans la Saône,
oui,
et pas
fait.
Dans le Jourdain.
Voilà encore une caractéristique justement du Beaujolais.
Ceci dit, c'est quand même dur. Enfin, On parle beaucoup, là on représente le Beaujolais pour les Beaujolais, parce qu'on connaît telle et telle, les pierres dorées, nous on les connaît, on est dans la région, mais il n'y a rien de caractéristique pour quelqu'un qui serait pas du Beaujolais, montré, à part une bouteille de vin et son étiquette, mais le Mont-Brouilly, ça ne va pas dire grand-chose.
Oui. Oui, tout à fait. Alors après, il y a quand même, un agencement particulier aussi, même si effectivement le paysage reste le paysage et peut rester aussi parfois générique. Après, bon, par exemple, si on prend la montagne Sainte-Victoire, mais pas dans le Beaujolais, mais par ailleurs, il y a quand même une forme qui revient, un motif qui revient. Voilà. Mmh. Et ce qui est le cas, en fait, dans certains coins, justement, du Beaujolais. Mmh.
Voilà. Donc, il faut que dans la région, il y ait quelque chose d'un peu universellement connu pour que quelqu'un qui ne soit pas dans la région le reconnaisse.
Tout à fait.
Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans les paysages Beaujolais, à part les vignes encore. Les vignes ne sont pas spécifiques. Enfin, un peu basses, mais à part ça, ce n'est pas spécifiquement Beaujolais.
Alors, elles sont assez bien représentées quand même, les vignes.
Oui, oui, oui.
Dans les différents tableaux. Oui.
Alors après, ce qui est assez... ce qui est assez, pas caractéristique du Beaujolais, mais qui est un peu générique au niveau de la représentation, c'est que très souvent, la représentation justement d'une région, en fait, se fait en tout début de carrière du peintre, soit à la fin de carrière du peintre, tout simplement parce qu'en fait, les lieux, on va dire, d'apprentissage du métier se font plus particulièrement dans des grosses villes comme Lyon ou Paris, où justement, il y a les Beaux-Arts à Lyon et à Paris, et qui fait que la plupart des peintres, justement, vont aller migrer vers ces grandes villes et quitte à y revenir sur la fin de vie, justement. Il faut aussi... Enfin, de ce que j'ai pu aussi voir au niveau des différentes peintures, la plupart, en fait, elles émanent du post-impressionnisme ou de l'impressionnisme. Tout simplement, pourquoi ? Parce que, en fait, peindre sur le paysage, c'est à cette période-là, en fait, avec la transportabilité de la peinture, c'est-à-dire que le chevalet est plus léger. On invente aussi, à l'ère du post-impressionnisme et à l'impressionnisme, tout ce qui va être les tubes de peinture, donc qui est bien pratique pour pouvoir justement peindre directement sur le vif et directement sur le paysage. Et aussi cette forme de dépeindre la variation climatique, c'est-à-dire dépeindre un peu les sensations et aussi les variations lumineuses sur le paysage.
Ce qui est une caractéristique de l'impressionnisme. Oui. Pour
tout
les néophytes, hein, c'est
vrai.
Oui, impression soleil levant pour ceux qui veulent aller voir quelque
mais,
chose.
Mais effectivement, la plupart des peintures en fait émanent sur cette période-là. Voilà. Sachant que bon, par exemple, Utrillo, il est pas trop dans l'impressionnisme, il est plus dans l'école de Paris en fait. Voilà.
Quels sont les angles artistiques qui pourraient être pris pour représenter le Beaujolais des paysages, des symboles, le vin?
Alors bien sûr, il témoigne d'une région agricole et d'une forme de géographie propre à cette région. Moi, je dis, enfin, de ce que j'en vois et de ce que j'ai vu aussi sur les différentes peintures, on a une sorte de mosaïque en fait d'alternance entre des friches, entre des forêts et des vignes, bien sûr. Donc on a cette alternance là en fait qui fait que justement, c'est un peu caractéristique de cette région là, sans occulter aussi bien sûr les lieux de culte et leur ornementation comme je viens de l'évoquer. Et bien sûr, on a tout ce qui est l'importance des métiers de la vigne et du vin qui ont été les sujets de certains peintres ou bien de la vie agricole. Par exemple, si on prend les tableaux en Beaujolais de Suzanne Valadon, notamment, ou encore du Frénois, ou d'autres. Hein, par exemple, je reviens aussi aux vitraux justement de Lucien Bégule, en fait, avec les vendanges, par exemple, qui remet certains, certains attributs, certains symboles en fait du Beaujolais.
Voilà. Et rien d'urbain, alors je sais bien que la ville n'est pas la caractéristique principale du Beaujolais, mais enfin, il y a quand même des petites villes.
Bien sûr, on a la représentation de la fameuse rue nationale, bien sûr. Les conscrits aussi, à un moment donné, on en sort d'ailleurs il n'y a pas très longtemps.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, toutes ces scènes de vie-là, en fait, ce quotidien-là et ces événements-là aussi.
Bien sûr.
Et la photographie, je n'oublierai pas aussi de détailler.
Ah oui, elle fait partie de l'art.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a des peintres qui sont attachés à représenter le Beaujolais ?
Alors bien sûr, comme Georges Dufresnois, donc avec justement le cuvage en Beaujolais qui est bien, on va dire, dans son jus en fait au niveau pictural, en fait, où on voit l'utilisation de touches violettes et rouges avec des rayons de jaune qui permettent aussi de pouvoir modeler, révéler cet espace intérieur qui est propre aux vendangeurs, en fait, au travail du vin. Ou encore, justement, on va revenir au milieu urbain avec la loggia Olis à Villefranche-sur-Saône, Donc un tableau justement de Georges Dufresnoy où on va, dans un premier temps, on voit ce vase et dans un second temps, on retrouve la représentation de cours intérieurs cachés typiques de la cité caladoise. Voilà, donc on retrouve un petit peu tous ces éléments-là. Je pense aussi à un peintre comme Jean Couty avec la rue nationale à Villefranche-sur-Saône, cette rue où justement qui est enneigée. Donc voilà, où on voit Notre-Dame-des-Marais, etc. Ou la vue de Nicée, donc qui est intitulée Paysage du Beaujolais. Un artiste aussi récent et qui a un travail intéressant en lien un peu avec l'hyperréalisme. L'hyperréalisme, c'est-à-dire au plus proche de la réalité finalement. C'est-à-dire on est dans un haut degré de représentation, proche de la photographie, on va dire. C'est le travail de Hubert Munier aussi, voilà, avec peint à Moulin-Favre, qui est pas très loin de Saint-Étienne-la-Varenne, Audena, qui a été réalisé en 2001. Voilà, où on voit à peine la touche, on a l'impression quasiment de voir une photographie. Voilà.
Et alors, donc, dans tous ces peintres qui se sont attachés à représenter le Beaujolais, on évoque souvent Utrillo, qui est passé rapidement dans la région dans les années 1920. Alors, c'est peut-être pas ce qu'il a peint le plus, le Beaujolais, Utrillo, malgré ce qu'on en dit.
Alors, en fait, Utrillo, il était de passage dans le Beaujolais, donc avec sa mère, Suzanne Valadon, et son beau-père et ami, André Uther. Tout simplement, comme un lieu un peu de repli, parce qu'en fait, il venait de Montmartre, donc de Paris. Maurice Utrillo était assez dépendant à l'alcool, et du coup c'était un lieu aussi pour... Enfin, il est quand même allé dans le Beaujolais, qui est quand même un lieu bon, connu aussi pour son vin. Mais voilà, l'idée était de couper un petit peu avec cette vie parisienne qui était assez dense, on va dire, à tous les niveaux. Et en fait, du coup, ils ont acheté en fait le château de Saint-Bernard, voilà, qui se situe de l'autre côté dans l'Ain.
On appelle ça le Beaujolais à part d'Empire.
D'accord. et donc, du coup, en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont en même temps implanté leur atelier, donc tous les trois. Et donc, effectivement, il y a eu certaines représentations du Beaujolais par Maurice Utrillo. Il y en a eu. Il y en a peut-être pas tant que ça, mais par contre, il y en a aussi pas mal de Saint-Bernard aussi, puisque c'est le lieu dans lequel il habitait. Et par contre, il y a eu aussi pas mal de représentations de Suzanne Valadon et puis de... puis d'André Uther, bien sûr. Voilà. Après... ce qui est assez intéressant par rapport au travail de Maurice Utrillo, c'est qu'on est vraiment voilà, sur un moment, en fait, un moment de ce qu'il voit. Donc, ça a contribué aussi à sa carrière de peintre avant qu'il reparte. Quoi.
Voilà. Oui, tu as déjà connu à l'époque.
Enfin, oui.
Et on dit, alors pour l'anecdote, hein, on raconte qu'il venait chercher ses peintures à Villefranche, parce qu'à Saint-Bernard, il n'y en avait pas, et que... comme il y a beaucoup de cafés dans la rue nationale, il avait tendance à un peu s'arrêter dans les cafés et qu'il aurait peut-être même monnayé certaines peintures contre des pots de Beaujolais, ce qui fait qu'il y a des personnes sur Villefranche qui ont des Utrillo.
Après, sachant qu'on n'a pas, voilà, tout à fait, on n'a pas connaissance de toutes ces représentations parce qu'il y a certains caladois qui en détiennent. Voilà.
Vibration calade.
Est-ce qu'il y a d'autres modes de représentation ? On parlait de ceux du Beaujolais. Est-ce qu'il y a d'autres peintres également qui ont fait d'autres représentations, mais en étant installés dans le Beaujolais ?
Munier, plus sur la fin de sa vie, par exemple. Mmh. Mais la plupart ont été obligés de quitter le Beaujolais pour y revenir après coup. Voilà. De tête comme ça, j'en ai pas... j'ai pas suffisamment... Non, je vois... Bon, enfin, voilà, ils ont tous à un moment donné dû quitter justement pour aller rejoindre la grande ville qui était Lyon à l'époque, et puis après pour y revenir pour soit pour la fin de vie, soit éventuellement comme un peu Utrio à un moment donné pour un lieu. En fait, le Beaujolais, c'est un peu un lieu de repli, un lieu de repos aussi, de tranquillité. Voilà.
On avait eu un débat, une présentation que Sylvie Carlier nous avait fait à l'Académie de Villefranche, où elle questionnait la question de école lyonnaise. Alors, donc il n'y a pas d'école beaujolaise, hein, on va tout de suite tuer le suspense. Qu'est-ce que ça veut dire une école? Qu'est-ce que ça pourrait être une école attachée à un lieu?
Après, ça peut être un lieu aussi qui...
Ou un style.
Ça peut être un justement, enfin, une école, ça peut être aussi propre à un style, comme ça peut être aussi propre à une représentation aussi de ce qui nous entoure aussi.
Ouais. Voilà. Mais des gens qui font ça volontairement ensemble, qui créent un mouvement.
Oui, bien sûr, oui.
Ou de manière informelle.
De manière informelle, oui, bien sûr.
Parce qu'elle disait que finalement, il n'y avait pas tant d'écoles lyonnaises que ça. Il y avait des peintres lyonnais qui se sont un peu les uns et les autres stimulés, mais qu'il n'y avait pas franchement de...
Peut-être, je pense qu'il y a des groupes de peintres qui veulent se séparer de l'influence parisienne, essentiellement, ou de celle du Sud, notamment. Oui. Et à Lyon, il y en a quelques-uns comme ça qui ont formé des petits groupes.
Oui, bien sûr, il peut y avoir aussi un refus de ces grandes écoles-là. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui, parfois, est intéressant aussi dans l'art, plutôt que de rester dans une forme d'académisme aussi. Voilà.
Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir là, dans le cadre du Beaujolais qui nous intéresse, où il n'y a pas d'école beaujolaise, il y a quand même des peintres qui représentent ce Beaujolais, mais en ayant les courants de leur époque, puisqu'on a été jusqu'au réalisme très contemporain, l'impressionnisme, et puis peut-être aussi des choses très classiques. Enfin, on n'est pas remonté avant le 19e siècle, mais il y a peut-être aussi des représentations très classiques. Moi, j'en ai pas connaissance, mais comme ça.
Après, c'est plus complexe parce que bon, des fois, il y a aussi eu des déplacements vers d'autres lieux, notamment à Lyon ou peut-être dans d'autres grosses villes comme Paris. Donc effectivement, ça a pas mal navigué aussi. Donc on n'a pas encore connaissance de toutes ces représentations, de toutes ces créations aussi.
Oui, c'est ce qu'on verra au moment du colloque. On peut déjà donner un petit avant-goût. Le Beaujolais, c'est un carrefour. Donc, et un carrefour, il y a du passage. Et forcément, les gens, et les artistes comme les autres, vont et viennent. Et on va essayer d'élargir un petit peu, parce qu'on a beaucoup parlé de peinture, c'est normal. Mais est-ce qu'on pourrait pas parler aussi d'autres modes de représentation? D'abord, avant de commencer pour le Beaujolais, mais quand on parle d'art, les modes de représentation, ça peut être quoi?
Alors, y a tout ce qui est la photographie, par exemple. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que, par exemple, Raymond Depardon est né à Arnas, quand même. Et après, il y a aussi un photographe, enfin, il y a un groupe de photographes et un photographe comme Pierre Emine, par exemple, qui est un photographe de presse à la base et qui est né à Villefranche-sur-Saône.
Pierre Emine,
autant oui. Pour moi. Je l'ai dit un peu à l'anglaise.
À l'anglaise, oui.
et donc, du coup, qui est décédé à Glaizé, en fait. Donc, du coup, qui est vraiment parti et revenu. Mmh. Et en fait, qui a aussi photographié comme figure principale qu'on connaît bien aussi, qui est Maurice Baquet, par exemple. Et qui le met en scène en fait tantôt sur le kiosque de la place de la sous-préfecture ou encore à la plage de Villefranche sur Saône. Donc du coup en fait est toujours en arrière-plan on a Villefranche-sur-Saône et un peu ce qui caractérise Villefranche-sur-Saône, cette rue nationale où notamment le kiosque qu'on connaît tous en fait.
Mmh, voilà. Bien sûr, oui.
Donc il y a Pierre Emin justement.
Oui. Académicien.
Je me suis académicien. Et sans oublier aussi Théodore Blanc et Antoine Demilly, donc bien sûr, qui ont pu portraiturer d'ailleurs Maurice Utrio, André Uther et Suzanne Valadon. Alors des fois en simple portrait, c'est-à-dire assez normé, ou parfois aussi en situation de peindre. Donc c'est assez intéressant aussi tout ce travail-là photographique, parce qu'on n'est pas si loin en fait de Chalon-sur-Saône malgré tout.
Eh oui, avec Nicéphore Niépce, voilà. Et pas Niépce. Et d'ailleurs, au passage, je me rappelle d'une exposition qui avait eu lieu à la Maison du Patrimoine sur les photographes de Villefranche, en tout cas, qui était très intéressante. Je ne sais pas si vous avez fait un catalogue ensuite, mais ce serait peut-être valable. Peut-être le coup de revoir.
Après, il y a aussi Robert Doisneau qui a réalisé aussi une célèbre photographie avec cette petite fille qu'on voit. Voilà, avec Notre-Dame en arrière-plan et en voyant un peu tout le déroulé de la rue nationale qui est assez chouette.
Ah bah oui, oui. Et on peut aussi élargir, parce que dans d'autres modes de représentation, il y aurait la sculpture, il y aurait les assemblages, les collages.
Oui,
enfin, mais là, on va peut-être un peu loin pour ce qui est Beaujolais.
Oui, après, je vois aussi que sur Villefranche, ça se développe de plus en plus en fait au niveau de l'aspect contemporain. D'ailleurs, il y a pas très longtemps a été apposé devant la gare de Villefranche-sur-Saône en fait trois grands verres qui sont vraiment intéressants à regarder en termes de matérialité, de matière. Mmh. Voilà.
Oui. Je rappelle aussi, il y a un grand tableau. Je ne sais pas si les gens le voient quand ils vont à la gare, parce qu'on parle de la gare. Mmh. Il y a un grand tableau du Beaujolais justement. Levez les yeux, c'est toujours très bien de lever les yeux quand on se promène, surtout quand on va prendre le train et quand il est en retard. Donc levez les yeux dans la salle d'attente, et il y a ce très beau... Et vous avez Jean Guillermet, notamment, l'académicien Jean Guillermet, qui est représenté dessus en vigneron. Donc voilà. Et puis pour les sculptures, on va casser une légende urbaine. Il y a une sculpture de Napoléon aux Écharmeaux. Mm-hmm. Et c'est parce que quelqu'un du coin avait fait une belle sculpture de Napoléon, et Napoléon n'est jamais passé aux Écharmeaux. Donc c'était juste parce que... Et ils l'ont mis sur un rond-point. Et pour le coup, ça représente pas le... Et pour le coup, ça représente pas le Beaujolais non plus.
Il y a aussi donc la fresque murale que l'on... Alors, est-ce que c'est une forme d'art particulière
Bien sûr. D'ailleurs, il y en a pas mal, et une qui représente aussi les conscrits, je crois.
Oui, très belle, oui.
Très belle,
oui. Ouais. Près de Saint-Pierre.
Bien sûr, c'est un...
Près de Saint-Pierre.
C'est un art important aussi, et on en retrouve dans le monde entier, bien sûr.
Il y en a une belle aussi. Alors, c'est souvent les Lyonnais qui viennent faire leur fresque murale.
Oui.
Oui, il y a un atelier à Lyon, je crois, notamment.
Tout à fait. Okay, assez...
Et il y en a une très, très belle que les gens ne voient pas trop parce qu'il faut y aller. C'est au 210 en Beaujolais.
Oui.
À l'intérieur du 210, où il y a Bocuse, notamment, qui est représenté, et d'autres, et qui est assez chouette. Et puis, il y a la fameuse muse empélopée près du marché couvert, que personne ne connaît, qui est une muse qui a été inventée pour représenter la vigne. Et c'est complètement de l'autre côté du marché couvert, avant le lycée Claude Bernard. Mais oui. L'art mural, bien sûr, là on est. C'est pas juste pour faire joli, c'est aussi de l'art.
C'est aussi de l'art, tout à fait.
Bien, merci beaucoup. Nous retrouverons ces réflexions dans la publication des conférences de notre colloque de septembre, puisque David Guckneck nous fera le plaisir de faire un petit texte pour reprendre un petit peu tout ça. Pour l'instant, je vous donne rendez-vous le samedi 11 avril à 16h à l'Auditorium pour prolonger cette émission avec la conférence proposée par l'Académie, les Florandrins peintres, qui sont des voisins lyonnais, et ce sera fait par Stéphane Pacou. Retrouvez toutes nos actualités sur notre page Facebook et notre site internet académie-villefranche.com.
Merci.
Pas de rien.
Ah ben si, de beaucoup.
La chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr.